bouillon de lecture. Bouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer, pour éventuellement vous donner envie de lire à votre tour. Et ce, tranquillement installé, le plus simplement du monde, sur votre canapé, par la simple lecture d'extraits choisis par Hervé ou par Catherine, selon les jours. Tout d'abord, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, donc, c'est Hervé qui devrait lire.
Théoriquement.
Bien. Tu peux peut-être nous dire maintenant le livre que tu as choisi de nous lire aujourd'hui.
Eh bien oui, pourquoi pas. Alors d'abord, bonjour. Bonjour Catherine.
Bonjour, oui.
Bonjour Dominique.
Bonjour, bonjour.
Alors, donc, je me rappelle qu'en début de saison 2018-2019, c'est comme ça qu'on dit aussi à la radio, hein, on peut... je m'étais promis de ne lire ni nouvelles, pour laisser la place à Catherine, ni policier. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de vous lire une nouvelle policière.
C'est ah là 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 là.
Plus exactement, deux nouvelles policières.
Cela dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis.
Exactement.
Bon, je vais lire des romans alors.
Mais en fait, derrière ce choix, j'ai envie de vous faire montrer l'univers de Fred Vargas.
Nous faire montrer, vraiment.
Vous faire montrer, oui, l'univers voilà. De Fred Vargas.
C'est les vacances, ça lui fait un effet.
Puisque les deux nouvelles que je vais vous lire aujourd'hui sont tirées de son livre « Coule la Seine ».
Eh bien, on t'écoute alors.
Alors tout d'abord, avant de commencer, quelques mots sur l'auteur, ou plutôt l'auteure, puisque Fred Vargas est le pseudonyme d'une femme dont le prénom est Frédéric. Elle s'appelle réellement Frédérite. Quant à Vargas, c'est pour coller à celui de sa sœur jumelle, qui est peintre et qui peint sous le pseudo de Vargas. Fred Vargas est archéozoologue et médiéviste. Archéozoologue, ça a pour but d'étudier les restes des animaux, les os, tout ce genre de choses, les cornes, les dents, afin de comprendre les relations que les humains entretenaient avec les animaux. Le médiéviste, c'est plus facile, ça. C'est un historien spécialisé dans le Moyen-Âge.
Ça explique bref, un petit peu son goût pour la peste, par exemple.
Oui, par exemple. Oui, mais souvent, elle fait des romans qui...
Dans Par vite et revient tard.
Voilà, exactement. Deux métiers donc qui mènent logiquement à celui d'écrivain. Fred Vargas est titulaire d'un doctorat en histoire. Excusez du peu. La principale série de Fred Vargas est celle du commissaire Jean-Baptiste Adamsberg. Et j'ai dit la principale série parce qu'elle a écrit d'autres romans où il n'y a pas donc Adamsberg. Hein, ça ne se limite pas à ça. Adamsberg, c'est un commissaire talentueux, mais flâneur, flegmatique, souvent énigmatique, dépourvu de véritables méthodes d'investigation. Il a beau être à la tête d'une brigade, il laisse à ses adjoints toute latitude pour réfléchir ou prendre des décisions, tandis que lui aime à aller se promener seul au bord de la Seine. Ça se passe à Paris, hein, pour réfléchir. Souvent, au retour de ses promenades, il a des intuitions et il aime alors à rediriger son petit monde dans une direction qui va souvent à l'encontre de celle qui était choisie, préconisée par la hiérarchie. Le génie de Vargas consiste à adjoindre à ce commissaire Adamsberg des adjoints qui sont devenus avec le temps des vrais personnages de romans. Secondaires, certes, comme on dit dans les films, et d'ailleurs, Fred Vargas a été tourné pour le cinéma et même à la télévision par la réatrice José Dayan. Vous vous rappelez de ça? Et avec le Jean-Hugues Anglade.
Oui.
Oui, dans le rôle du commissaire Adamsberg.
Il y a eu un film avec, comment il s'appelle, là, le copain d'Antoine Decaune, là, celui qui faisait les trucs sur Canal+, avec lui. Là. José Garcia,
voilà. Tiens oui, c'est vrai, oui. Mais donc ces personnages secondaires deviennent très attachants avec leur caractère propre, jusqu'au chat de la brigade qui passe son temps à dormir sur la photocopieuse. En conséquence...
Celle que je préfère, moi, c'est Violette Retencourt.
J'en parle après. Ces personnages secondaires sont principalement le commandant Adriel Anglard, méthodique, au savoir encyclopédique, mais grand consommateur de vin blanc et de bière. et Violette Retencourt. Tu vois, Dominique, Violette Retencourt, donc, de forte corpulence, mais capable, grâce à son énergie, de faire bien des choses, notamment celle de sauver parfois son commissaire préféré des sales pattes des méchants. Car il peut y avoir des vrais méchants. Autant Adamsberg est flou, autant les méchants paraissent toujours réels, bien ancrés dans la société, ce qui permet de faire le pont, en quelque sorte, entre la poésie de cette brigade et la réalité de notre société. Les nouvelles que j'ai choisies aujourd'hui ont été publiées à partir de 1997. J'ai dit à partir d'eux, car elles ont été rééditées plusieurs fois. On peut considérer qu'elles sont presque à l'origine de la série. Je parle des livres, pas du cinéma. Le commandant Danglars existe déjà, mais pas encore Retencourt, apparu plus tard. Avec ces deux nouvelles, Fred Vargas plonge immédiatement le lecteur dans l'univers Adamsberg qui ne cessera par la suite de se peaufiner, de s'améliorer pendant tous les tomes de la série jusqu'à son dernier qui s'appelle « Quand sort la recluse » publié en 2017. Sur les araignées. Ouais. Oui, parce que la recluse étant une araignée. J'ai assez parlé. Place à la première nouvelle, 5 francs pièce.
Oh, I think I'll come. she bringing names to all the animals in the beginning. I saw him disappear by a tree near a lake.
Cinq francs pièce. C'était fini. Il n'en vendrait plus une seule ce soir. Trop froid, trop tard, les rues s'étaient vidées. Il était presque 23 heures à la place Maubert. L'homme obliqua sur sa droite, poussant devant lui son chariot bras tendu. Ces foutus chariots de supermarché n'étaient pas des instruments de précision. Il fallait toute la force des poignets et une sacrée connaissance de l'engin pour le maintenir dans le droit chemin. C'était buté comme un âne. Ça roulait de travers, ça résistait. Il fallait lui parler, l'engueuler, le bousculer, mais comme l'âne, ça permettait de trimballer une bonne quantité de marchandises. Buté, mais loyal. Il avait appelé son caddie Martin, par déférence pour tout le boulot qu'avaient abattu les ânes d'antan. L'homme gara son chariot auprès d'un poteau et l'attacha à une chaîne, à laquelle il avait accroché une grosse cloche. Gare au fils de fumier qui voudrait lui piquer son chargement d'éponges pendant son sommeil. Il trouverait à qui parler. Des éponges, s'il en avait vendu 5 dans la journée, c'était le bout du monde. Ça lui faisait 25 francs, plus de 6 francs de reste d'hier. Il sortit son duvet d'un sac suspendu sous le ventre du caddie, se coucha sur la bouche de métro et s'enroula bien serré. Impossible d'aller se réchauffer dans le métro. Il aurait fallu abandonner le chariot en surface. C'est comme ça. Quand on a un animal, ça demande des sacrifices. Jamais il n'aurait laissé Martin seul dehors. L'homme se demanda si son arrière-grand-père, quand il allait de ville en ville avec son âne, était obligé de coucher près de sa bête dans les champs de chardon. De toute façon, c'était égal, parce qu'il n'avait pas eu d'arrière-grand-père, ni quoi que ce soit de ce genre familial. Mais ça n'empêche pas d'y penser. Et quand il y pensait, il imaginait un vieux type avec un âne qui s'appelait Martin. Que transportait l'âne? Des harengs salés, peut-être, ou des draps d'elbeuf, ou des peaux de mouton. Lui, il en avait trimballé des trucs à vendre, tellement de trucs qu'il avait tué à la tâche 3 chariots sous lui. Cet âne-ci était le 4e d'une longue lignée. C'était le premier qui portait des éponges. Quand il avait découvert cette mine d'éponges à l'abandon dans un hangar de Charenton, il s'était cru sauvé. 9732 éponges végétales, il les avait comptées. Il était calé pour les chiffres, c'était de naissance. Multiplié par 5 francs, on ne pouvait pas monter le prix, parce que les éponges n'avaient pas bonne allure, ça faisait 48660 francs. Un mirage, une rivière. Mais depuis 4 mois qu'il transvasait ses éponges depuis le hangar de Charenton jusqu'à Paris et qu'il poussait Martin dans toutes les rues de la capitale, il en avait vendu exactement 512. Personne n'en voulait, personne ne s'arrêtait, personne ne regardait ses éponges, ni son chariot, ni lui-même. À ce rythme, il lui faudrait 2150 jours pour écluser le hangar, soit 6,17 années à traîner son âne et sa carcasse. Les chiffres, ça avait toujours été son truc. Mais ces éponges, tout le monde s'en foutait, à part 5 personnes par jour. Ça ne fait pas beaucoup, 5 personnes, merde, sur 2 millions de Parisiens. Serré dans son duvet, couché en chien de fusil, l'homme calculait le pourcentage de Parisiens acheteurs d'éponges. Il regarda un taxi s'arrêter à sa hauteur. Une femme en sortir, les jambes très fines, puis son manteau en fourrure blanche. certainement pas une femme à entrer dans le pourcentage des acheteurs d'éponges. Peut-être ne savait-elle même pas ce que ça pouvait bien être, une éponge, comment ça se gonflait, comment ça se pressait. Elle le contourna sans le voir, traversa, longea le trottoir opposé, composa un code à l'entrée d'un immeuble. Une voiture grise passa doucement, l'éclaira dans le rayon de ses phares, freina près d'elle. Le conducteur descendit, la femme se retourna. Le vendeur d'éponges fronça les sourcils en alerte. Il savait reconnaître les types qui s'en prennent aux femmes, et ça ne serait pas la première fois ni la dernière fois qu'il en bousillerait un. À force de diriger des chariots lourds et rétifs, il s'était fait des points de débardeur. Il y eut 3 coups de feu, et la femme s'écroula à terre. Le tueur se rencogna dans la voiture, embraya et disparut. Le vendeur d'éponges s'était écrasé aussi plat que possible sur la bouche de métro. Un vieux tas de fringues abandonné dans le froid, c'était tout ce que l'assassin avait vu de lui, s'il l'avait seulement vu. Et pour une fois, cette atroce transparence qui échoua au 100 grades lui avait sauvé la peau. Il se tortilla en tremblant hors du sac de couchage, le roula en boule et l'enfourna dans le sac plastique sous le ventre du caddie. Il s'approcha de la femme, se pencha vers elle dans l'obscurité. Du sang souillait le manteau de fourrure, on aurait dit un jeune phoque sur la banquise. Il s'agenouilla, ramassa le sac à main et l'ouvrit rapidement. Des lumières s'allumaient aux fenêtres, 3, puis 4. Il jeta le sac à terre et courut de son à son caddie. Les flics allaient rappliquer, c'était une question de minutes, les gars étaient des rapides. Fébrilement, il fouilla dans ses poches à la recherche de la clé de son antivol. Pas dans le pantalon, pas dans la veste. Il fouilla encore. Courir, abandonner Martin. Est-ce qu'on faisait un truc pareil à un compagnon aussi fidèle et dur à la tâche qu'avait été ce chariot? Il retourna ses 8 poches, tâta sa chemise. Les flics, bon sang, les flics, et leurs questions. D'où venaient les éponges? D'où venaient les chariots? D'où venait l'homme? De rage, il tira sur le caddie pour tenter de l'arracher au poteau métallique. Et la cloche résonna dans la nuit, stupide et gaie. Et très vite, une sirène et des pas de course. Et puis des voix, brèves, l'efficace et maudite énergie de la flicaille. L'homme se pencha sur son chariot, enfonça ses bras au cœur des éponges et des larmes lui montèrent aux yeux. Dans la demi-heure qui suivit, toute une masse de flicailles lui était tombée dessus. D'un côté, il était un type important, le seul témoin de la tuerie, et on le ménageait, on le questionnait, on lui demandait son nom. D'un autre, il n'était qu'un vieux tas de fringues récalcitrant, et on le secouait, on le menaçait. Et pire, on entendait l'embarquer au commissariat, seul. Et lui s'accrochait de toutes ses forces au caddie en criant que si on n'emportait pas le chariot avec lui, il ne dirait pas un mot de ce qu'il avait vu, plutôt crever. Il y avait à présent dans la rue des projecteurs, des voitures à gyrophares, des photographes, une civière, du matériel partout, des murmures inquiets, des téléphones. « Qu'on escorte ce gars à pied jusqu'au commissariat !» dit une voix plus loin, pas loin de lui. « Avec son caddie plein de merde ?» demanda une autre voix. « J'y compte. Faites sauter le cadenas. Je vous rejoins dans 20 minutes. » L'homme aux éponges se retourna et regarda quelle sorte de flicaille avait donné cet ordre. À présent, il était assis face à lui, dans un bureau mal éclairé. Le caddie avait été garé dans la cour du commissariat, entre 2 grosses voitures, sous l'œil inquiet de son propriétaire. Et maintenant il attendait. Voûté sur sa chaise, un gobelet de café dans une main, son sac plastique serré sur les genoux. Les téléphones avaient beau sonner, il y avait eu toutes sortes d'allées et venues, de l'empressement, des consignes, des ordres, un branle-bas de combat général, parce qu'une femme en fourrure s'était fait descendre. Sûr que si ça avait été Monique, la dame du kiosque qui lui faisait lire les nouvelles tous les matins, à condition expresse de ne pas ouvrir le journal jusqu'à la plieure, si bien qu'il ne connaissait du monde qu'une moitié longitudinale, sans jamais atteindre au cœur. Sûr que si ça avait été Monique, il n'y aurait pas 10 flics en train de courir d'un bureau à l'autre, comme si tout le pays basculait à la mer. On aurait attendu paisiblement l'heure du café, pour se traîner jusqu'au kiosque, constater des dégâts. Et on n'aurait pas téléphoné à tout l'univers. tandis que pour La femme en blanc, on avait réveillé la moitié de la capitale, à ce qu'il semblait, pour cette petite femme qui n'avait jamais pressé une éponge. Le flic avait à présent reposé tous les téléphones. Il se passait une main sur la joue, parlait à voix basse à son adjoint, puis le regardait longuement comme s'il essayait de deviner toute sa vie sans rien demander. Il s'était présenté, commissaire principal Jean-Baptiste Adamsberg. Il lui avait demandé ses papiers, on lui avait pris ses empreintes, et maintenant le flic le regardait. Il allait le questionner, il allait le faire causer, lui faire dire tout ce qu'il avait vu depuis son ras de trottoir. Compte là-dessus, il était le témoin unique, inespéré. On ne l'avait pas secoué, on l'avait débarrassé de sa veste, on l'avait assis avec un café chaud. Tu penses, le témoin, l'objet rare, le bibelot, on allait le faire causer, compte là-dessus, oui. Vous dormiez ? Demanda le commissaire. Quand cela s'est produit, vous dormiez ? Le flic avait une voix douce, intéressante, et l'homme aux éponges leva les yeux au-dessus de son café. « J'allais dormir, précisa-t-il, mais on l'est toujours dérangé. » Adamsberg tourna sa carte d'identité entre ses doigts. « Toussaint Pi. »« C'est votre prénom, Pi ?» L'homme aux éponges se redressa. « Mon prénom s'est dissous dans le café, » dit-il avec une certaine fierté. « C'est tout ce qu'il en est resté. » Adamsberg le regarda sans répondre, attendant la suite, que l'homme récita comme un poème de toujours. « À la Toussaint, ma mère m'a apporté à l'assistance. Elle a mis mon nom sur le grand registre. Quelqu'un m'a pris dans ses bras. Quelqu'un d'autre a posé sa tasse de café sur le grand registre. Le prénom s'est effacé, dans le café. Il n'en est resté que deux lettres. Mais sexe masculin, ça ne s'est pas dissous. Encore heureux. Ça devait être Pierre. Il ne restait que Pi. » dit l'homme fermement. « Ma mère avait peut-être écrit « Pi ».» Adamsberg hocha la tête. « Pi », confirma-t-il. « Ça fait longtemps que vous vivez dehors ?»« Avant, j'étais coutelier. J'allais de ville en ville. Ensuite, j'ai vendu des bâches, des détachants, des pompes à vélo, des chaussettes. À 49 ans, j'étais sur le trottoir avec un stock de montres de plongée gorgées d'eau. » Adamsberg regarda à nouveau la carte d'identité. Ça fait le dixième hiver, conclut Pi. Puis il se tendit, se préparant à la rafale de questions usuelles sur l'origine des marchandises. Mais rien ne vint. Le commissaire se redressa sur sa chaise, passa ses mains sur son visage comme pour le délier. « Y a du grabuge, pas vrai ?» demanda Pi avec un demi-sourire. « Un grabuge comme vous n'en avez pas idée, » répondit Adamsberg. « Tout repose sur vous, sur ce que vous allez nous dire. » « Est-ce qu'il y aurait un pareil grabuge si c'était Monique ?»« Qui est Monique ?»« Ben, la dame du kiosque, plus haut, sur l'avenue. »« Vous voulez la vérité ?» Pi hocha la tête. « Eh bien, pour Monique, ce ne serait pas du tout le même genre de grabuge. Ce serait un grabuge tout s'il y a de discret, avec une bonne petite enquête. Il n'y aurait pas 200 types qui attendent de savoir ce que vous avez vu. »« Elle, elle ne m'a même pas vu. »« Elle ?» La femme en fourrure, elle a fait le tour de moi comme un tas de guenilles. Elle ne m'a même pas vu. Alors pourquoi je l'aurais vu, moi ? Il n'y a pas de raison. Donnant, donnant. Vous ne l'avez pas vu ? Juste un tas de fourrure blanche. Adamsberg se pencha vers lui. Mais vous ne dormiez pas. Les coups de feu ont dû vous alerter, non ? Trois coups de feu, ça fait du bruit. C'était pas mon affaire. J'ai un chariot à surveiller, moi. J'ai pas tout le quartier à m'occuper. Il y a vos empreintes sur son sac à main. Vous l'avez ramassé. J'ai rien pris dedans. Mais vous vous êtes approché d'elle après la fusillade. Vous avez été voir. Et après, elle est descendue d'un taxi. Elle a contourné mon tas de guenilles. Un type est arrivé en bagnole. Il a tiré trois coups dans le tas de fourrure. Et basta. J'ai rien vu d'autre. Adamsberg se leva, fit quelques pas dans la pièce. Tu ne veux pas aider, c'est ça ? Pi plissa les yeux. « Vous me tutoyez ? Les flics tutoient. Ça augmente le rendement policier. À ce compte-là, je pourrais tutoyer aussi. Toi, t'as aucune raison de le faire. Tu n'as pas de rendement, puisque tu ne veux rien dire. Vous allez me cogner dessus ? » Adamsberg haussa les épaules. « J'ai rien vu, dit Pi. C'est pas mon affaire. » Adamsberg s'adossa au mur, le regarda. Le petit était assez amoché par le manque, par le froid, le vin, qui lui avait labouré le visage et creusé le corps. Sa barbe était encore à moitié rousse, taillée au ciseau au plus près des joues. Il avait un petit nez de fille et des yeux bleus cernés de rides, expressifs et rapides, qui hésitaient entre la fuite et l'armistice. Pour un peu, le type aurait posé son sac au sol, étendu les jambes, et on aurait discuté là un bon petit moment comme deux vieilles connaissances dans un wagon de train. « On peut fumer ?» demanda Pi. Adamsberg acquiesça, et Pi lâcha d'une main son sac en plastique, d'où dépassait un vieux duvet bleu et rouge, pour tirer une cigarette de la poche de sa veste. « C'est minable !» dit Adamsberg sans bouger de son mur. Ton histoire de tas de guenilles et de tas de fourrures, du pot de terre et du pot de fer. Tu veux que je te raconte ce qu'il y a sous les guenilles et sous les fourrures où tu ne te souviens plus? Il y a un type cradingue qui vend des éponges et une femme propre qu'on n'a jamais achetée de sa vie. Il y a un homme dans la merde qui sait des tas de trucs et une femme dans le brouillard avec 3 balles dans le corps. Elle n'est pas morte? Non. Mais si on n'attrape pas le tueur, il remettra ça, tu peux en être sûr. » L'homme aux éponges fronça les sourcils. « Pourquoi ? » demanda-t-il. « Si on avait attaqué Monique, on recommencerait pas le lendemain. » « On a dit que ça n'était pas Monique. C'est quelqu'un d'important, pas vrai ? » ?»« Quelqu'un de placé tout là-haut, » dit Adamsberg en levant l'index. « Pas loin du ministère de l'Intérieur, d'où le grabuge. »« Eh ben, c'est pas le mien, » dit Pi en haussant le ton. « Je m'en balance du ministère et je m'en balance de leur grabuge. Moi, mon grabuge, à moi, c'est de vendre 9732 éponges. Et personne n'en a rien à foutre de mes éponges. Et personne ne me file un coup de main. Et personne, tout là-haut, là, ne se demande comment on pourrait bien faire pour que je ne me gèle pas les couilles à longueur d'hiver. Et moi, il faudrait que je les aide, que je fasse leur boulot et que je les protège. Et qui c'est qui a les éponges sur le dos? C'est eux ou c'est moi ? « Vaut peut-être mieux avoir 9732 éponges sur le dos que 3 balles dans le corps. »« Oui, ben, c'est pas certain. Des soirs. »« Et vous voulez que je vous dise, commissaire ?»« Oui, j'ai vu des trucs. »« Oui, j'ai vu le gars tirer. »« Oui, j'ai vu sa bagnole. »« Je sais déjà tout ce que tu as vu, tout ça, Pi. »« Ouais, ouais. Quand on est dehors, on surveille tout ce qui s'approche, surtout au moment de s'endormir. » « Eh bien, vous leur direz tout là-haut, là, que tout Saint-Pi, il a des éponges à vendre et il a autre chose à faire que dépanner les femmes en manteau blanc. »« Et des femmes tout court, c'est pas une femme tout court. » Adamsberg traversa la pièce, s'arrêta devant Pi, les mains enfoncées dans ses poches. « Mais on s'en fout, Pi, » dit-il lentement. « On s'en contrefout de ce qu'elle est. On s'en fout de son manteau, de son ministère et de tous ces types qui se chauffent les fesses sans penser aux tiennes. C'est leur merde, c'est leur turpitude. Et ce n'est pas ce soir qu'on va la nettoyer en 3 coups de tes éponges. Parce que c'est de la crasse si vieille qu'elle a fait des montagnes, des crassiers, ça s'appelle. T'es un con, Pi. Et tu veux que je te dise pourquoi ?
Bon, j'y tiens pas.
Ces crassiers, imagine-toi qu'ils ne se sont pas faits tout seuls. Sans blague, ils se sont faits sur l'idée qu'il y a sur Terre des gens plus importants que les autres, qu'il y en a eu et qu'il y en aura. Et je vais t'en apprendre une fameuse, c'est faux. Personne n'est plus important. Mais toi, Pi, tu le crois, et c'est pourquoi t'es aussi con que les autres.
Mais je crois rien, moi, merde. Si, tu crois que cette femme est importante, plus importante que toi, alors tu te tais. Mais moi, ce soir, je te parle juste d'une femme qui va mourir et de rien d'autre. Des blagues. Toute vie vaut toute vie, que ça t'arrange ou pas. La sienne, la tienne, la mienne et celle de Monique, ça nous en fait déjà 4. Tu ajoutes les 6 milliards qui restent et t'as le compte de tout ce qui compte.
Des blagues, répéta Pi, des idées. Je vis d'idées. Eh bien, moi, je vis d'éponge.
C'est pas vrai.
Pi se tut et Adamsberg se rassit à sa table. Après plusieurs minutes de silence, il se leva et enfila sa veste. Viens, dit-il, on va marcher.
Avec ce froid, je suis bien, moi, ici, je suis au chaud.
Je ne peux pas penser sans marcher. On va descendre dans le métro. Marcher sur les quais, ça donne des idées.
De toute façon, j'ai rien à vous dire.
Je sais. De toute façon, il va fermer le métro. Ils vont nous foutre dehors. Je connais la musique.
ils ne me foutront pas dehors. Ah, privilège. Ouais. Sur le quai désert de la station Cardinal Lemoine, direction Austerlitz, Adamsberg marchait à pas lents, en silence, tête baissée. Et puis, plus rapide, essayait de se mettre à son rythme, car ce flic, quoique flic et déterminé à sauver la peau de la femme en manteau, était tout de même un type de bonne compagnie. Et la compagnie est ce qu'il y a de plus rare quand on pousse son chariot. Adamsberg regardait une souris courir entre les rails. « En fait, » dit soudain Pi, en faisant passer son duvet d'un bras sous l'autre, « j'en ai aussi des idées. »« Sur quoi ?»« Sur les ronds. Cette naissance, au hasard, le bouton de votre veste, vous avez idée de sa circonférence ?» Adamsberg haussa les épaules. « Je ne savais même pas remarquer ce bouton. »« Moi, si. Et ce bouton, je dirais qu'il fait 51 mm de tour. » Adamsberg s'arrêta de marcher. « Et ça avance à quoi ?» demanda-t-il avec sérieux. Pi secoua la tête. « C'est pas la peine d'être flic pour ne pas piger que c'est la clé du monde. Quand j'étais petit à l'école de l'assistance, on m'appelait 3-14. Vous saisissez la blague ? Pi, 3-14 ? Le diamètre du cercle multiplié par 3-14 égale la circonférence. Eh bien, cette blague, ça a été la grande affaire de ma vie. Comme quoi, c'était peut-être un sacré coup de veine si mon nom s'était dissous dans le café. » Je suis devenu un nombre, et pas n'importe quel nombre, attention !»« Je comprends, » dit Adamsberg. « Vous ne pouvez pas vous faire une idée de tout ce que je sais. Parce que Pi, ça fonctionne avec n'importe quel rond. C'est un grec qui a trouvé ça dans le temps. C'était des malins, les grecs. Hein. Ta montre, tu veux savoir le tour de ta montre, si des fois que ça t'intrigue ? Ton verre de pinard, si tu veux savoir quelle circonférence t'as bu ? La roue de ton chariot, le tour de ta tête, le tampon de la mairie, le trou de ta chaussure, le milieu de la pâquerette, le cul de la bouteille, la pièce de 5 balles. Le monde, il est fait que le rond. Vous y aviez pensé à ça ? Eh bien moi, une colle, si vous ne me croyez pas. La pâquerette ? Avec les pétales ou tout juste le cœur jaune. Le cœur. 12 mm 24. On parle déjà d'une assez grosse pâquerette. Ouais, reprit-il en hochant la tête, c'est ma destinée. Et c'est quoi le plus grand rond, le rond ultime ?
Le tour de la Terre.
Tout juste, je vois que vous me suivez. Et personne ne peut savoir le tour de la Terre sans en passer par Pi. C'est l'astuce. C'est comme ça que je me suis retrouvé la clé du monde. Vous me direz à quoi ça m'a mené, hein ? « Si tu résolvais mon affaire comme tu résous les ronds, ça serait déjà quelque chose. »« J'aime pas son diamètre. »« J'avais compris. »« C'est quoi son nom à la femme ?»«
Pas de nom. Interdit. »«
Ah bon ? Elle aussi, elle a perdu son nom ?»«
Oui, Adamsberg, en souriant. Il ne lui reste même pas le début. »«
Ben, on va lui donner un nombre alors, comme à moi. »« Ce sera tout de même plus charitable que de dire « la femme ».»« 421, on va l'appeler. » Parce que elle a tiré le gros lot. Si tu veux, disons 421.
Adamsberg conduisit Pi à un petit hôtel situé à 3 rues du commissariat. Il rejoignit son bureau à pas lents. Un émissaire du ministère l'y attendait depuis déjà une demi-heure, ulcéré. Adamsberg le connaissait. C'était un jeune type brillant, offensif et trouillard. « Je questionnais le témoin, » dit Adamsberg en déposant sa veste en tas sur une chaise. « Il vous en faut du temps, commissaire. »«
Oui. »«
Vous avez appris quelque chose ?»«
Oui, la circonférence du cœur d'une pâquerette, d'une assez grosse pâquerette. »«
On n'a pas le temps de se distraire. Je pense qu'on vous l'a bien fait comprendre, non ?»«
Le type est difficile, il a des raisons de l'être. »« Mais il sait un tas de choses. »
« Il y a urgence, commissaire, et j'ai des ordres. On ne vous a pas enseigné que n'importe quel type difficile se travaille en moins d'un quart d'heure ?»«
Si.
Alors qu'est-ce que vous attendez ?»«
De l'oublier.
Vous savez que je peux vous enlever l'affaire ? Ce n'est pas en lui cognant dessus que vous le ferez parler. »
Le sous-secrétaire posa son poing sur la table.
« Alors comment ?
Il ne s'occupera de nous que si on s'occupe de lui. »«
Et qu'est-ce qu'il veut, bon sang ?
Faire sa vie. » Vendre ses éponges, 9732 éponges pourries à 5 francs pièce.
C'est tout ? Mais il n'y a qu'à lui acheter ces foutues éponges. Le sous-secrétaire fit un rapide calcul mental. « Vous aurez les 50 000 balles ce matin à 8 heures, » dit-il en se levant. « Et c'est une faveur que je vous fais, croyez-moi, au vu de vos états de service. Je veux les informations à 10 heures au plus tard. »
« Je crois que vous n'avez pas bien compris, monsieur le sous-secrétaire, » dit Adamsberg sans bouger de sa chaise.
« Quoi donc ? L'homme ne veut pas qu'on l'achète, il veut vendre ses éponges. 9732 éponges à des gens, à 9732 personnes.
Vous rigolez ou quoi, commissaire ? Vous vous figurez peut-être que je vais vendre des éponges de ce gars ? Que je vais envoyer tous les agents de l'État démarcher dans les rues ?
Ça ne collerait pas, dit tranquillement Adamsberg. Il veut vendre ses éponges, lui-même.
Le sous-secrétaire se pencha vers Adamsberg. « Dites-moi, commissaire, est-ce que par hasard les éponges de ce gars vous inquiéteraient plus que la sauvegarde de... »«
De 421 !» compléta Adamsberg. « C'est son nom de code ici. On ne prononce pas son véritable nom. »«
Oui, c'est mieux, » dit le sous-secrétaire en baissant brusquement la voix.
« J'ai une sorte de solution, » dit Adamsberg, « pour les éponges et pour 421. »« Qui marcherait ?»
Adamsberg hésita.
« Peut-être, » dit-il.
À 7h30 du matin, le commissaire frappa à la porte de la chambre de Toussaint Pie. Le vendeur d'éponges était debout et ils descendirent au bar de l'hôtel. Adamsberg servit le café, lui tendit la corbeille de pain.
« Il y avait une sacrée douche dans ma chambre, » dit Pie. « 26 cm de circonférence, 2G à la racine, ça vous fouette un homme. »«
Elle va comment ?»«
Qui ?»
« Eh bien, 421.
Elle s'en sort. Elle est surveillée par 5 flics. Elle a dit quelques mots, mais elle ne se souvient de rien.
Le choc, » dit Pie.
« Oui, j'ai eu une sorte d'idée cette nuit. Et moi, j'ai eu une sorte de rendement. »
Pie mordit dans sa tartine, puis fouilla dans la poche de son pantalon. Il posa un papier plié en 4 sur la table.
« Je vous ai tout marqué là-dessus, » dit-il. « La gueule du gars, sa dégaine, ses fringues, la marque de sa bagnole et même le numéro de sa plaque. »
Adamsberg posa sa tasse et leva les yeux vers Pie.
« Tu savais le numéro de la plaque ? Les chiffres, c'est mon truc, c'est de naissance !»
Adamsberg déplia le papier et le parcourut rapidement.
« Merci, » dit-il.
« Pas de quoi, je vais téléphoner. »
Adamsberg revint à la table quelques minutes plus tard.
« C'est parti, » dit-il.
« Tu penses, avec le numéro, ça va être du billard pour vous autres. Vous pincerez le gars dans la journée. »«
J'ai eu une sorte d'idée cette nuit pour vendre tes éponges. »
Pie fit une grimace, avala une gorgée de café.
« Ouais, moi aussi, » dit-il. « Je les fourre dans un chariot, je le pousse à longueur d'année et je demande aux gens de me les acheter 5 francs pièce. »
« Une autre sorte d'idée. » « Plus la peine, vous avez les infos maintenant. »
C'était une bonne idée ?
Une idée bizarre.
Une ruse de flic ?
Une ruse d'homme.
Donne quelque chose en échange des 5 francs.
Pie posa ses mains sur la table.
« Ben, ils ont l'éponge.
Dites donc, vous me prenez pour un malhonnête ?
Elles sont pourries, tes éponges.
Pour ce qu'on en fait, hein, les écrabouiller dans de l'eau sale, c'est pas enviable d'être une éponge.
Tu donnes l'éponge et autre chose. »
« Comme quoi ? Comme écrire leur nom sur un mur de Paris. »
« Je pige pas. Chaque fois que quelqu'un t'achète une éponge, tu peins son nom sur un mur, le même mur. »
Pie fronça les sourcils.
« Et moi, je m'installe devant avec la marchandise ?
C'est ça.
D'ici 6 mois, tu auras un grand mur couvert de noms, une sorte de gigantesque manifeste des acheteurs d'éponges, un rassemblement presque un monument. »
« Vous êtes marrant, vous. Qu'est-ce que vous voulez que j'en foute de ce mur ?
Il n'est pas pour toi, il est pour les gens. »«
Mais ils s'en balancent, les gens. »«
Ils ne s'en balancent pas. Tu auras peut-être la queue devant ton caddie. »«
À quoi ça les avancera ? Vous voulez me le dire ?
Ça leur fera de la compagnie et un petit peu d'existence. C'est déjà pas mal. »«
Parce qu'ils l'ont pas, ça, les gens, de l'existence ?
Pas tant que tu te figures. »
Pie trempa son pain dans son café, mordit dedans, trempa à nouveau.
J'arrive pas à me décider si c'est une idée à la con ou si c'est quelque chose de mieux que ça.
Moi non plus.
Pie termina son café, croisa les bras.
Et vous croyez que je pourrais mettre mon nom aussi ?
Demanda-t-il.
En bas à droite, par exemple, comme si je signais tout le bazar quand il sera fini ? si ça te chante. Mais faudra payer l'éponge, c'est ça le truc. Évidemment, vous me prenez pour un arnaqueur. » Pi réfléchit encore sans bouger pendant qu'Adamsberg enfilait sa veste. « Dites voir, dit Pi. Il y a un os, c'est que j'en ai pas de mur, moi. » »« Moi, si, j'en ai arraché un cette nuit au ministère de l'Intérieur. Je t'emmène le voir. » »« Et Martin ?» demanda Pi en se levant. « Qui est Martin ?»« Ben, mon caddie. » « Ah oui, bien sûr, ton caddie est toujours sous la garde attentive des flics. Il vit des moments exceptionnels qui ne se reproduiront pas deux fois dans sa vie. Ne le dérange pas pour l'instant. » Porte de la chapelle, Adamsberg et Pi considéraient en silence le haut mur pignon d'un immeuble désert et gris. « C'est à l'état, ça ?» demanda enfin Pi. « Ils n'ont pas voulu me donner le trocadéro. »« Ah ben, tu penses. »« Tant qu'on peut peindre dessus, » dit Adamsberg. « Oui ?» Un mur vaut un mur. Pi s'approcha du bâtiment, tâta la surface de l'ennui du plat de la main. Je commence quand ? Tu auras la peinture et l'échelle demain. Ensuite, tu te démerdes. Je peux choisir les couleurs ? T'es maître à bord. Je prendrai des pots ronds, ça me fera des diamètres. Les deux hommes se serrèrent la main et Pi fit une grimace. Tu n'es pas obligé de le faire, rappela Adamsberg. C'est peut-être une idée à la con. Elle me plaît bien. Dans un mois, j'aurai déjà des noms jusqu'à mi-cuisse. Qu'est-ce qui te soucie ? 421. Elle sait que c'est moi, Toussaint Pi, qui ai trouvé le salopard qui lui a tiré dedans. Elle le saura. Adamsberg s'éloigna lentement, les mains dans les poches. Hé ! Cria Pi. Et vous croyez qu'elle viendra ? Vous croyez qu'elle viendra m'acheter une éponge ? Mettre son nom sur le mur ? Adamsberg se retourna, leva les yeux vers le mur gris, écarta les bras en signe d'ignorance. « Tu le sauras » cria-t-il. « Et quand tu le sauras, préviens-moi » Il fit un signe du bras et reprit sa marche. « C'est toi qui écris l'histoire » murmura-t-il. « Et moi, je viendrai la lire. »
Je sais depuis hier que ma belle écolière mettra en bandoulière sa chambre au fond de la maison. Je sais depuis une heure qu'un nouveau professeur donne des leçons de cœur au banc de l'école des buissons.
Des mendiants ou des princes, des mandrins de province, ils sont de valeur enfant. Si ma fortune est mince, je ne suis ni mendiant ni prince.
De bataille, chasseurs de...
La deuxième nouvelle que je vais vous lire est une imitation. En effet, je vous avais parlé dans une émission précédente, ne me demandez surtout pas quand, d'un atelier d'écriture dans notre bonne ville de Blois. Tu te rappelles, Dominique,
oui,
de
absolument.
Ça ? Je m'étais même permis d'inviter des jeunes auteurs, eux, de cet atelier. Alors, puisque nous avons encore un petit peu le temps, permettez-moi de vous lire une nouvelle écrite en 2011 par un autre Blaisois de ce même atelier, peu importe son nom, il ne m'en voudra pas. Nouvelle qu'il avait intitulée à l'époque « Fin de soirée » et qui était fortement inspirée des aventures du commissaire Adamsberg. Fin de soirée. Non, monsieur le commissaire, non, ce n'est pas possible. Et pourquoi non ? Parce que, si ce que vous dites est vrai, alors cette chaise-ci ne peut être à cet endroit-là, et surtout dans cette position. La chaise en question était toute retournée d'entendre les insinuations du commissaire. Comment, moi, chaise banale s'il en est, aurais-je pu servir à asseoir un assassin ? Devait-elle se demander. Mais le commissaire s'entêtait. « Et pourquoi pas, Janglars ?» Son fidèle adjoint, commandant Janglars, plus petit que son supérieur hiérarchique, mais habitué à combler cette différence de taille par la vigueur de son esprit pragmatique, s'approcha de la dite chaise qui n'osait pas bouger de peur de gêner la démonstration. « Voyez, monsieur le commissaire, la position actuelle de cette chaise, couchée perpendiculaire à l'arbre, et surtout, je dis bien surtout, Janglars, sûr de lui, devenait péremptoire, gisant dans cette position. Le dossier par le dessus et les deux pieds avant seulement enfoncés de quelques millimètres, alors que le temps est humide depuis la mi-juillet. Si la chaise désignée avait eu une langue, elle aurait approuvé fortement le commandant Janglars. Mais, timide, elle se contentait d'alléger au maximum le poids de ses deux pieds sur la pelouse. Un fauteuil situé à l'opposé commençait à ressentir des picotements sous ses deux bras. Il sentait que la situation pouvait mal tourner pour lui. Mais le commandant Janglars continuait. « Cette position actuelle prouve bien, commissaire, que l'occupant de cette chaise n'a pas pu être l'auteur du coup de feu. Il y aurait des marques bien plus profondes dans la terre. » Janglars se déplaça alors vers le fauteuil à l'opposé du cercle. Il le considéra longuement, caressant de ses mains le long dossier de cuir de buffle naturel dont l'irrégularité prouvait la provenance lointaine et luxueuse. « Par contre, continua Janglars, regardez bien la position exacte de ce fauteuil. Regardez bien, monsieur le commissaire, comme son pied arrière gauche est enfoncé de quelques centimètres alors que le droit repose sur la terre sans laisser de traces apparentes. » Le fauteuil incriminé se demandait quelle attitude il devait adopter, entre ruade rageuse pour marquer la terre de son empreinte ou déboîtement de son bras droit pour faire tomber par surprise le commandant Janglars qui osait en plus prendre appui sur lui sans avoir exprimé ne serait-ce qu'une formule de politesse pour ce faire. Prudent, le fauteuil se contenta de tendre le cuir pour mieux entendre Janglars sûr de son fait continuer. « Un seul pied, commissaire, un seul pied !» Le commissaire Adamsberg commençait à comprendre où son fidèle adjoint cherchait à l'entraîner. « je vois, Janglars. Mais alors, si ce que vous pensez est vrai, c'est que l'assassin est gaucher ?» À ces mots, la chaise abandonnée plus haut frémit d'horreur. « Ils se disent des êtres supérieurs à nous et ils n'ont pourtant rien compris. » Adamsberg et Janglars se retournèrent ensemble, croyant avoir senti une présence, alors qu'ils étaient seuls depuis plus d'une heure, à faire réfléchir sur la scène du crime. « Cette atmosphère crépusculaire et moite commence à nous jouer des tours, » dit Adamsberg. « Accélère, Janglars !» Celui-ci réfléchissait à ce que venait de dire le commissaire. Il se décida tout d'un coup. « Nous pouvons facilement en avoir le cœur net !» Il décrocha son portable à sa ceinture et le porta à son oreille. « Mettez en cours, vous allez appeler Fissal commissariat au service des gardes à vue et leur demander si l'un d'entre eux saurait si notre suspect est droitier ou gaucher. » sur quoi il raccrocha et sortit une cigarette de sa poche qu'il glissa dans sa bouche, sans l'allumer. Ce simulacre de geste pour se faire croire lui-même qu'il fumait, lui permettant au moins d'oublier momentanément que l'heure de l'apéro avançait à grands pas et qu'il aurait bien ouvert dans l'instant une petite bouteille de Sauvignon. Après avoir mâchonné son mégot pendant plusieurs minutes, le téléphone à sa ceinture sonna. Il décrocha dans l'instant, oubliant le mégot qui tomba à ses pieds. « Je t'écoute, Métancourt !» Janglars écouta la réponse en se frantant le nez, tic nerveux qui le prenait dans les moments d'intense réflexion. « Alors, Janglars, que dit Métancourt ? On le tient, notre suspect, ou non ?» Tous à la brigade sont unanimes sur ce point, commissaire, car le suspect n'arrêtait pas de faire des tours de cartes pour patienter. Il est ambidextre. Et merde, dire de concert, la chaise, le fauteuil et le commissaire.
Well, I don't know why I came here tonight. I got the feeling that something ain't right. I'm so scared in case I fall off my chair, and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you, and I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the place. To the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing and you found that you're a selfish man, and your fans, they all come crawling, slap you on the back and say,
Eh bien, merci Hervé, merci pour ces deux nouvelles, merci pour le plaisir que tu nous as procuré en redécouvrant Fred Vargas. C'est toujours un bonheur de lire Fred Vargas. Eh bien, chers auditeurs et auditrices, nous allons vous donner rendez-vous pour le mois prochain. Et je me tourne vers Hervé pour la question rituelle. Le titre est-il déjà choisi ?
Ben, évidemment non, comme d'habitude.
Évidemment non. D'autant plus que la prochaine fois, ce sera vraisemblablement Catherine qui lira. Absolument. Eh bien, bonsoir Hervé, bonsoir à tous les deux, et au mois prochain.
Au mois prochain, bonsoir.
À bientôt.